Et donc, innovation encore, avec un panorama de la vidéo à la demande et quatre propositions innovantes qui nous sont présentées par Laetitia Facon, qui est responsable du service de la vidéo physique et en ligne au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Bonjour à tous. Je me présente, donc Laetitia Facon. Dans mon service, on s'occupe d'aide à la vidéo physique et en ligne au CNC. On a aussi en charge, donc de manière plus générale, le développement de l'offre légale et la lutte contre la piraterie audiovisuelle et le dossier épineux de la chronologie des médias. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça, mais plutôt pour vous dresser rapidement un panorama de la vidéo à la demande en France. Et ensuite, de vous présenter en tout cas quatre propositions de plateformes qui sont émergentes et qui sont intéressantes parce que leur proposition est singulière. Donc, je vais commencer par vous donner une définition, mais peut-être que tout le monde sait ce que c'est que la vidéo à la demande, donc je vais aller très rapidement. Donc, la vidéo à la demande, elle appartient à la catégorie des services de médias à la demande, et les services de médias à la demande ont été définis par la loi en France comme étant donc un service de médias audiovisuels de communication au public par voie électronique qui permet le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur, et ça c'est important, et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlés par l'éditeur de service. Donc la principale caractéristique, c'est d'être un service non linéaire. Et le concept même de service de médias à la demande englobe des services qui sont très hétérogènes dans leur nature, leur pratique contractuelle, leur type d'édition et leur modèle économique. Donc parmi les services qui sont explicitement exclus, donc en fait comme une définition en creux, il y a ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire. Donc, par exemple, les sites médicaux, les sites de recettes de cuisine sur lesquels vous pouvez avoir de la vidéo, mais qui ne sont pas considérés comme des services de médias à la demande. Ceux qui consistent à fournir ou à diffuser des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échange au sein de communautés d'intérêt. Par exemple, tout le contenu amateur de YouTube n'est pas considéré comme un service de médias à la demande. Donc, en pratique, le régulateur français distingue trois types de services de médias à la demande. La vidéo à la demande gratuite et payante, dont je vais vous parler. La télévision, la TVR, la télévision de rattrapage, qui n'est pas considérée comme de la vidéo à la demande. Et les offres de contenu professionnel des plateformes de partage de vidéos, YouTube, Dailymotion, etc. La frontière, parfois, entre ces différentes catégories de services est très poreuse. Donc, quand on parle de vidéo à la demande, on parle généralement de services payants, mais également de services gratuits, qui proposent d'acheter ou de louer, donc quand c'est payant, un contenu audiovisuel dématérialisé sous forme de fichiers vidéo. Donc, en France, il y a une très grande diversité de plateformes VOD. On en dénombre à peu près 90 services payants actifs en mars 2017, selon le CNC, hors, évidemment, services adultes. Et il y a également des services gratuits qui sont particulièrement difficiles à recenser et à qualifier, et dont les plus connus sont YouTube ou Dailymotion, qui hébergent des milliers de chaînes et des nouvelles chaînes se créent tous les jours. Donc, quand on est service de vidéo à la demande, on doit se déclarer auprès du CSA et le CSA tient un jour une liste des services actifs en France. Donc, comme je vous l'ai dit, ce marché regroupe des acteurs qui sont très, très divers. Vous avez à la fois des offres de fournisseurs d'accès à Internet, par exemple Orange ou encore Altice, ex-SFR Numéricable, ou Free, qui sont les principaux distributeurs de vidéos à la demande. Vous avez aussi des offres qui sont adossées à des groupes audiovisuels, comme TF1, M6, Canal+, France Télévisions ou encore Arte. Des ayants droit, des producteurs ou des distributeurs qui se sont... réunis pour créer Univers Ciné, ou le meilleur du cinéma, ou encore Wild Bunch, qui a créé Filmo TV, pour offrir une offre dématérialisée de leurs films en ligne. Vous avez aussi des fabricants d'équipements, comme Apple, comme Sony ou comme Microsoft, ou encore des loueurs de DVD, comme Vitis, ex-Vidéo Future, ou Netflix aux États-Unis. Vous avez enfin des entreprises de grande distribution, comme Carrefour ou la Fnac, qui proposent leur propre offre de vidéos à la demande, ou encore des pure players comme Google ou Dailymotion. Donc, l'accès à ces offres se fait de deux manières, soit par IPTV, c'est-à-dire des services gérés par ADSL, câble ou fibre optique, comme peut être la box TV d'Orange, de Free, Altice ou encore Bouygues Télécom, ou ce qu'on appelle l'Internet ouvert, qui sont des services qui sont accessibles directement sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone ou sur TV connectée. Il y a une diversité des modèles économiques et l'offre de vidéo à la demande peut être soit accessible, le film peut être soit accessible en vidéo à la demande à l'acte, ou ce qu'on appelle aussi la TVOD, Transactional VOD. Donc cette fenêtre de diffusion correspond à la chronologie des médias, une fenêtre à 4 mois. Donc c'est la fenêtre qui est la plus proche de la sortie salle d'un film cinématographique. Et vous avez dans très peu de cas une dérogation possible à 3 mois quand le film a vraiment pas du tout marché en salle, c'est-à-dire a fait moins de 200 entrées en 4e semaine d'exploitation. Donc l'utilisateur peut regarder le programme loué autant de fois qu'il le souhaite, soit en streaming, soit en téléchargement temporaire, pendant une période de temps limitée qui va généralement de 24 à 48 heures. Vous avez ensuite l'offre de vidéo à la demande par abonnement, qu'on appelle VADA ou SVOD, donc en anglais... Subscription VOD. Donc, vous avez accès au film moyennement un abonnement qui est mensuel. L'utilisateur dispose souvent d'un accès illimité à un catalogue de programmes en location qui est régulièrement renouvelé. Les vidéos sont disponibles soit en streaming, mais certains services autorisent aussi le téléchargement temporaire des fichiers pour permettre un visionnage hors connexion, très pratique quand on fait des voyages réguliers en train. Donc, dans la chronologie des médias, la fenêtre d'exploitation de la VOD par abonnement correspond à 36 mois après la sortie en salle des films cinématographiques. Donc 36 mois, c'est une très très longue durée pour ceux qui veulent profiter de leur abonnement pour voir les films de cinéma. Vous avez une troisième possibilité qui est le téléchargement définitif. Donc lors du téléchargement définitif, le contenu, en tout cas le film que vous voulez voir, vous est acquis définitivement. Donc soit le client le télécharge sur un terminal, soit il jouit d'un accès en ligne illimité au programme et la vidéo est stockée sur un serveur dans ce qu'on appelle le nuage. Donc, quand le téléchargement définitif est à l'acte, hein, il correspond à une fenêtre de chronologie des médias de 4 mois. Et quand il est à l'abonnement, il correspond à la fenêtre de 36 mois dont je vous ai parlé précédemment. Et enfin, vous pouvez avoir accès à de la vidéo à la demande de manière gratuite, souvent avec de la publicité. Donc le contenu, dans ces cas-là, il est mis gratuitement à disposition de l'utilisateur en contrepartie du visionnage d'un ou plusieurs spots publicitaires. En pratique, très rares sont les contenus professionnels de longue durée qui sont proposés gratuitement hors télévision de rattrapage et évidemment hors piratage. Donc, pour vous donner quelques chiffres globaux sur la vidéo à la demande, en 2016, le marché représente 244 millions d'euros. C'est un marché qui s'inscrit dans une tendance qui est plutôt à la hausse, une hausse de 20% par rapport à l'année 2015. On peut constater que le marché de la vidéo à la demande à l'acte est un marché qui est en repli. Il comprend un grand nombre d'acteurs, bénéficie d'une chronologie des médias qui est favorable, puisque j'ai parlé de chronologie des médias à 4 mois après la sortie salle, et parfois même il bénéficie d'une chronologie des médias en premium, c'est-à-dire avant la sortie salle, et à partir du moment où le film se retrouve en salle, il doit être évidemment enlevé des propositions de vidéos à la demande. Le paiement à l'acte reste le moyen de consommer la vidéo à la demande qui est majoritaire, un moyen qui est majoritaire. Et pour l'année 2016, on estime le marché de la VAD à l'acte à 235 millions d'euros, qui est un résultat stable par rapport à l'année 2015. Il y a à peu près 14 000 films qui sont disponibles en location à l'acte. L'offre est composée de un tiers de films français, 43% de films américains et le reste de films issus d'autres pays et d'autres nationalités. Concernant l'audiovisuel, le documentaire est le genre le plus représenté en vidéo à la demande, avec pas moins de 46,4% des références actives. La location à l'acte recule de 4,5% en 2016. Elle passe ainsi pour la première fois sous la barre des 50% du marché par rapport à 2015. Le téléchargement définitif, lui, par contre, progresse et c'est une bonne nouvelle pour les ayants droit de ce secteur parce que le téléchargement définitif est celui qui va ramener le plus de valeur sur une œuvre parce que c'est une proposition qui est plus chère que la simple location. C'est pour vous donner un titre de comparaison, en téléchargement définitif, les prix s'approchent de celui du DVD avec une moyenne de 13 euros. Donc ça, c'était pour la vidéo à l'acte. Pour la vidéo par abonnement, on constate entre 2015 et 2016 une progression sensible de ce mode de consommation. Le marché français de la VAD par abonnement a connu une évolution rapide et cette évolution, elle est notamment en partie due à la notoriété qui a été apportée sur la vidéo à la demande par abonnement grâce à des services comme Netflix, qui est arrivé en France en septembre 2014, et beaucoup plus récemment par Amazon Prime Video. Donc, pour ses 10 ans d'existence cette année, le marché de la vidéo à la demande par abonnement a franchi un cap à 109 millions d'euros et est en progression sensible donc depuis 2015. En termes d'offres, sur la VOD à l'abonnement, près de 8000 titres sont disponibles, ont été disponibles en tout cas au cours de l'année 2016. Donc ça, c'était pour vous donner quelques chiffres. Donc, les principaux acteurs de la VOD en France, en termes de poids, vous les connaissez tous, donc je ne vais pas revenir dessus. Et c'est juste pour vous indiquer que Orange, qui est le leader historique sur le marché, a un poids estimé de 30 à 40% du chiffre d'affaires annuel, suivi par iTunes, par SFR Numéricable, Netflix, évidemment, que vous connaissez tous, et qui représente à peu près 900 000 abonnés en France depuis septembre 2014. Amazon Prime qui est arrivé tout récemment, donc on n'a aucun chiffre. Et puis, vous avez des acteurs plus historiques comme Canal Play, leader historique de la VOD par abonnement en France et qui, si on compare à Netflix, a un nombre d'abonnés équivalent à 614 000 en France au 30 juin 2016. Et le nombre d'abonnés de Canal est en chute depuis l'arrivée de Netflix. Vous avez ensuite des acteurs gratuits que vous connaissez tous, YouTube, Dailymotion, Facebook, avec des visiteurs uniques qui se comptent en plusieurs millions de visiteurs. Et vous avez les nouveaux venus comme Instagram ou Snapchat qui prennent une part prépondérante de la vidéo gratuite également. Donc peut-être pour arriver plus rapidement sur ce qui vous intéresse, je vais vous parler des différentes plateformes. Des différentes plateformes originales qu'on a pu soutenir au CNC. Je vais d'abord vous parler des Mutins de Pangée. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette plateforme ? Oui, il y a quelques bras qui se lèvent. Donc, les Mutins de Pangée, c'est une coopérative audiovisuelle et cinématographique de production, de distribution et d'édition indépendante. Elle a été créée en 2005. C'est une plateforme de VAD. Donc, la coopérative a été créée en 2005. La plateforme a été créée en février 2014. Et elle est basée sur le partage des expériences et des regards à travers le cinéma de fiction et de documentaires en valorisant des films militants pour que ces films deviennent outils de débat et de réflexion destinés à un plus large public. Donc, ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'il y a un mélange entre un modèle de proposition d'œuvres à la fois cinématographiques et documentaires payantes et à l'acte, et également une éditorialisation très enrichie avec des interviews, des cycles thématiques pour aborder ces différents films proposés. Et à la fois ces interviews et tout cet enrichissement éditorial peut être soit payant, soit gratuit, soit encore un modèle intermédiaire qui est de demander à celui qui va visionner les compléments éditoriaux de donner ce qui lui semble intéressant, ce qu'il veut donner pour voir ces compléments. Donc, de retour d'expérience, quand l'œuvre est payante ou les compléments éditoriaux sont payants, ça marche bien. Quand ils sont gratuits, ça marche bien aussi. Après, sur le modèle qui est de laisser au libre arbitre de celui qui veut visionner le soin de voir combien il veut donner. Souvent c'est considéré comme du gratuit ou du quasi gratuit et peu de personnes décident de finalement monnayer ce visionnage. Mais bon, c'est un modèle qui est intéressant. Donc il y a des cycles thématiques de programmation qui sont dits ouverts sur le modèle des festivals de cinéma. Les films se font ainsi écho avec des compléments éditoriaux et viennent alimenter des débats. Et l'idée, en fait, est donc d'avoir ces œuvres qui sont achetées par la coopérative dans des cas classiques d'acquisition de d'œuvres, mais également d'avoir des contenus de production qui sont partenaires à la coopérative, qui viennent enrichir les œuvres et les thématiques et les débats qui sont proposés sur cette plateforme. Donc cette plateforme est accessible uniquement en consultation sur Internet, donc en OTT, pas sur les box. Et il y a une application qui est disponible sur smartphone ou tablette et qui se fait un peu l'écho du site. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir les œuvres en direct sur les applications, mais par contre, les applications vous donnent accès aux bandes-annonces des films, aux vidéos gratuites et vous tiennent informés des différentes actualités de la coopérative. Le CNC aide cette plateforme depuis déjà plusieurs années, presque 3 ans, et on a vu la proposition vraiment qui était très amateur au départ, se professionnaliser et acquérir un public qui certes est de niche, mais qui est un public de followers, enfin de suiveurs de la plateforme, et ce public se consolide. Donc c'est vraiment une plateforme qui, en 3 ans de temps, a réussi à acquérir son public, en tout cas à le gagner et à le garder. Donc pour l'année 2017, cette plateforme va faire un cycle sur l'autodéfense intellectuelle et va proposer des thématiques comme la lutte contre l'évasion fiscale, la recherche d'alternatives concrètes dans ce domaine, la sécurité sociale et son histoire, le rapport entre masculin et féminin et la prison, et évidemment au moment des présidentielles, ce thème était très fort sur cette plateforme. Une deuxième plateforme que vous connaissez probablement plus, je vais vous parler de la Cinétech, qui est née de l'association de la SRF, le syndicat des réalisateurs de films, et de la plateforme Le Meilleur du Cinéma, sur un constat conjoint qui est le manque d'offres VAD dédiées spécifiquement aux grands classiques du cinéma du XXe siècle. Le projet éditorial repose sur une idée très simple, mais très séduisante pour les cinéphiles, qui est de donner la parole à des réalisateurs connus sur leur cinématographie, leur liste de films sur lesquels ils avaient envie de qui les a forgés d'abord en tant que réalisateurs et sur lesquels ils avaient envie de communiquer et de participer à des compléments éditoriaux. Donc, cette association a commencé donc avec la SRF et Le Meilleur du Cinéma et sont venus par la suite rejoindre cette association la Arte France, l'INA, la Cinémathèque de Toulouse, la Cinémathèque française, Studio Canal, Gaumont, Lobster, et on espère que cette association va grossir au fur et à mesure du temps qui passe et va surtout grossir de catalogues qui vont pouvoir être rendus disponibles par ce biais. À ce jour, il y a 34 réalisateurs associés de toutes nationalités qui ont composé une liste d'une cinquantaine de films chacun. Et parmi ces réalisateurs, on peut compter Alain Chabat, Lodge Kerrigan, Gérard Kravzik, Kurosawa, Philibert, Salvatori, Schwarzberg et encore bien d'autres qui viendront titiller notre envie de cinéma. Et ça marche vraiment par curiosité, c'est-à-dire que quand vous vous rendez sur le site de la Cinémathèque, vous avez, vous, des réalisateurs qui vous ont influencé, qui vont influencer et construire votre cinéphilie. Donc, si vous trouvez ces réalisateurs, vous commencez par suivre des parcours et après, les parcours se répondent les uns les autres. Et voilà, enfin, si vous commencez une soirée cinémathèque, vous pouvez vous coucher finalement très, très tard entre les compléments éditoriaux, entre les paroles, la parole qui est donnée aux réalisateurs et surtout les films de patrimoine qu'il est donné de revoir. Donc, ce service est également disponible sur Internet, sur l'Internet ouvert, donc en OTT, et accessible sur smartphone et tablette. Et ça fonctionne, c'est une proposition qui fonctionne sur de la vidéo à la demande, à l'acte et en téléchargement définitif. Donc, l'utilisateur peut aussi offrir un ou plusieurs films à des connaissances. Donc, vous pouvez faire cadeau du visionnage de certains films à vos amis. Des passes, des ciné-passes de 10, 20 ou 50 euros sont également disponibles. Et vous avez également, donc, comme je l'ai dit, du téléchargement définitif ou encore des packs. Par exemple, un ou plusieurs films qui sont disponibles en même temps, ce qui pourrait correspondre dans l'univers physique à un coffret. Par exemple, le coffret de Fanny et Alexandre d'Igmar Bergman avec la version cinéma et la version télévisée qui vous sont données à visionner en même temps. Donc, vous pouvez, à partir de l'offre de la Cinéthèque, vous créer votre propre liste de visionnage, la partager sur les réseaux sociaux, la recommander, offrir des films à des amis, voire offrir une liste personnalisée de films à vos amis. Les prescriptions des réalisateurs constituent la vraie clé d'entrée de ce site, et c'est une clé d'entrée qui est très originale et qui parle à tous les cinéphiles que nous sommes. Vous avez ensuite une autre plateforme qui a été aidée par le CNC. On n'a pas encore de retour sur le lancement de cette plateforme une fois l'aide octroyée, mais c'était une proposition qui était intéressante. C'était la plateforme NoWave, donc qui a été lancée en juin 2016. C'est une plateforme, cette fois-ci, de vidéo à la demande par abonnement, qui propose un abonnement mensuel de 7,99 € en France et au Royaume-Uni, donc dans les deux langues, en français et en anglais. Une thématique originale déclinée chaque mois avec une curation de films sélectionnés avec soin. Ces films étant parfois rares ou voire inédits en salle, découverts dans des festivals et choisis donc par des experts. Donc NoWave se propose d'offrir un contenu éditorial qui est fort, comme toutes les plateformes que le CNC décide d'aider, avec donc une curation de films sélectionnés. Chaque mois, des personnalités du monde artistique, de la mode, des auteurs, des chefs étoilés, des journalistes ou encore des grands reporters font partager ce qui, dans le cinéma, les inspire. Donc c'est une autre façon d'amener l'utilisateur de la plateforme de VOD à s'intéresser à des films en suivant les conseils de personnes renommées et pas forcément dans le domaine du cinéma. Donc vous avez Vincent Ravalec, auteur et scénariste, Claude Guibal, grand reporter à France Culture et France Inter, Anne Lorbel, ancienne journaliste au Film Français et à la Semaine de la Critique, qui sont des exemples de curateurs pour cette plateforme. Donc je ne peux pas pour l'instant vous indiquer quel est le retour. Cette plateforme va proposer des films récents, mais également des films de long métrage, des films de patrimoine, de court ou de long métrage. Et évidemment une éditorialisation forte avec des interviews avec le réalisateur, l'équipe du tournage, des liens sur des articles de journaux, des critiques, enfin bref, une éditorialisation qui est très forte. Et enfin, la dernière des plateformes à être venue nous voir, hein, car elle a été créée en 2016, il s'agit de Tank, qui est accessible depuis le 15 juillet dernier. Et elle est adossée au réseau de l'USAS et Tank comprend 64 actionnaires, principalement issus du secteur du documentaire de création. Donc la plateforme a noué des partenariats médiatiques et éditoriaux avec Mediapart, Arrêt sur image, Revue XXL, filmdocumentaire.fr, images documentaires. Et après un démarrage avec à peu près 1000 abonnés, la plateforme compte à la fin de l'année 2016 une communauté d'à peu près 6000 personnes. Il y a une newsletter, des relais sur les réseaux sociaux dont Facebook, des abonnements découvertes. Et ThinkSuite souhaite rapidement élargir la diffusion en tout cas du documentaire, hein, à des pays francophones tout d'abord, comme la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Canada, l'Afrique francophone et les Caraïbes. Donc ce serait le développement pour l'année 2017. L'offre de documentaires sélectionnée est organisée en plage par une équipe d'une vingtaine de programmateurs, donc là aussi des curateurs qui sélectionnent des œuvres, rédigent des avis. Et ces avis ont pour vocation de permettre à l'utilisateur de la plateforme de se retrouver dans le détail de l'offre documentaire qui est large et fournie. Et c'est un peu comme de prendre par la main l'utilisateur pour lui ouvrir le catalogue du documentaire dans son entier. Donc une éditorialisation là encore très forte. Chaque film est accompagné d'un résumé et propose également des fiches, des thématiques, une biographie écrite et une filmographie détaillée de chacun des cinéastes. Voilà, donc c'est de manière très très rapide, parce que j'avais une demi-heure, le brossage à la fois du panorama VOD et de quelques propositions qui sont intéressantes. Vous retrouvez tout ce que je vous ai dit et bien plus encore sur le site du CNC, et je suis à votre disposition évidemment pour des questions s'il y en a, à la pause, d'après ce que j'ai compris.